Sud Radio.
Seul. Contre tous. Kevin Michel.
Bonjour à tous, vous êtes sur Sud Radio. Ce matin dans Seul contre tous, on va parler du mal des entreprises du 21e siècle, le burn-out. Le député PS des Yvelines, Benoît Hamon, a déposé une proposition de loi pour une meilleure reconnaissance de ce problème comme maladie professionnelle. Soutenue par 81% de ses collègues, l'ancien ministre souhaite que soit facilitée la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle pour plusieurs raisons. Évidemment pour venir en aide à ses salariés en souffrance, et selon plusieurs sources, la France serait championne d'Europe en la matière. Alors, ce sont des chiffres contestables, tout simplement parce que aujourd'hui, ces chiffres, selon plusieurs études, varient de 30 000 à plus de 3 millions de personnes qui seraient à risque. Certaines personnes qui sont en souffrance, évidemment, on le remettra pas en cause, mais moi, je vais vous le dire, ce matin, j'ai un petit peu aussi l'impression qu'on marche sur la tête, parce que d'abord, l'Académie de médecine considère que ce n'est pas une maladie au sens strict, mais plutôt un état aux signes et au degré de gravité varié, mais dont on ne sait pas grand-chose finalement du point de vue médical. Et puis parce que le burn-out, c'est la mélancolie du 19e, la neurasthésie du 20e, ou encore la paranoïa de l'entre-deux-guerres. Bref, vous l'aurez compris, le burn-out existe depuis de très nombreuses années. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre un nom sur les choses. À mon sens, le burn-out, c'est un petit peu le diagnostic à la mode. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Dans les deux cas, que vous soyez en situation de burn-out ou pas, vous nous appelez parce que c'est votre débat, parce qu'il vous appartient. Le numéro n'a pas changé, 0826 300 300 pour prendre la parole. Vous votez également sur sudradio.fr et vous laissez vos commentaires sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio.
Seul.
Contre tous. Sud Radio.
Kevin Michel.
Le burn-out est un petit peu devenu le diagnostic à la mode, à mon sens. Évidemment, on ne remet pas en cause ce matin les gens qui souffrent véritablement au travail, parce que le burn-out, c'est une situation qui est quand même particulièrement difficile à supporter. Malgré tout, aujourd'hui, quand on entend certains psychiatres ou certains médecins généralistes dire que beaucoup de patients viennent dans leur cabinet en se considérant en situation de burn-out alors qu'ils ne souffrent que d'une grosse fatigue ou quelque part d'un ras-le-bol, un petit peu de surmenage au travail, ça pose quand même tout un tas de questions sur cette maladie. Venez nous dire si vous êtes d'accord avec moi ce matin pour dire que c'est un petit peu le diagnostic à la mode, ce burn-out, ou si vous êtes contre moi. D'ailleurs, vous nous appelez 0826 300 300. Que vous soyez en situation de burn-out ou pas, ce débat, c'est aussi le vôtre. N'hésitez pas à prendre la parole et puis vous participez aussi sur sudradio.fr. On fait d'ailleurs tout de suite un point sondage avec vous, Jean-Marie Bordry.
Et pour l'instant, le burn-out est devenu un diagnostic à la mode. Pour l'instant, 68% des auditeurs sont d'accord avec vous. Kevin.
Alors, juste avant de donner la parole à nos deux invités ce matin, on va demander à Chantal ce qu'elle en pense. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Alors, votre avis sur cette question du burn-out?
Écoutez, moi je pense qu'effectivement il y a des cas où ça peut se produire selon les entreprises dans lesquelles les gens travaillent, parce qu'il y a des entreprises qui sont effectivement excessivement difficiles et qui traitent très mal leur personnel. Ça c'est sûr, ça existe. Mais d'un autre côté, je pense que ça se généralise un peu trop. Et je crois que, si vous voulez, la notion en France du travail n'est pas vraiment réelle. Je crois que les gens perdent la notion du travail. L'amour du travail, parce que si on compare à ne serait-ce que 50 ans ou 30 ans, les gens travaillaient et ils ne se plaignaient pas, et on leur demandait de faire des heures, des travaux très difficiles, et tout le monde allait travailler.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous, Chantal, d'autant d'ailleurs que si vous me le permettez, Chantal, c'est vrai que ce burn-out, il est apparu il y a plus de 40 ans, et il y a 40 ans, on n'en parlait pas. C'est vrai que, j'ai l'impression que quelque part, aujourd'hui, en 2016, on a besoin de mettre des mots sur les choses, sur un certain type de phénomène.
C'est un peu
le diagnostic à la
d'accord
mode.
Avec
c'est pour
vous.
Ça que...
Et moi, voyez, je disais, il y aurait moi, je fais une proposition. Faire plutôt que de garder des gens au chômage pendant très longtemps ou avec beaucoup d'aide, mais qui ne leur apporte pas ni de formation, ni de réflexion. Alors moi, j'organiserais des stages de réflexion avec tout cet argent qu'on gaspille, y compris dans les prisons. Je ferai des stages de formation et de réflexion à l'étranger. Je les emmènerai en Inde, au Pakistan, vous voyez. Là, en Afrique,
oui.
Je pense que là, on prendrait conscience que la France est un pays, d'ailleurs, pourquoi on a autant de succès ? Eh bien, parce que, justement, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup d'écoute,
oui,
il y a beaucoup de confort.
Ce que vous nous dites ce matin...
Et
on
a marre
oui.
de tout ça, parce que ça nous coûte très cher, et on fait de l'assistanat total.
Alors, ce que vous
moi,
nous dites, Chantal, en gros, ce matin...
Oui, il y a du burn-out.
Oui, oui.
Mais pas là, il faut arrêter, quoi, de pleurer sur tout, sur rien, il y en a marre.
Alors, ce que vous nous dites ce matin, Chantal, et je vous remercie pour votre témoignage, c'est que c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec vous. Évidemment, on ne remet pas en cause les gens qui sont vraiment frappés par le burn-out, parce que c'est quelque chose de difficile à supporter. Malgré tout, Chantal, je suis bien d'accord. On n'est quand même pas si mal loti que ça en France, et on pourrait de temps en temps avoir aussi, eh bien, se rappeler, comme vous l'avez dit, que ça se passe de manière très différente et beaucoup plus difficile à l'étranger. Merci, Chantal. Évidemment, vous faites comme Chantal, hein, que vous soyez d'accord avec elle, d'accord avec moi ce matin ou pas. 0826-300-300. Alors, on est ce matin avec Sylvie Brière, qui est consultante en entreprise et présidente de l'association France Prévention. On est également avec Marianne Chapdelaine, qui est députée socialiste d'Ille-et-Vilaine et qui a signé une pétition pour que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, Marianne Chapdelaine, je commence par vous. Je le disais, donc le député PS des Yvelines, Benoît Hamon, a présenté une proposition de loi pour une meilleure reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. C'était impératif, selon vous ?
Oui, parce que, comme l'a dit l'auditrice, on n'a pas de chiffres dessus, parce qu'actuellement, le burn-out n'est pas une maladie professionnelle. Donc, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir la reconnaître comme telle. Et quand on dit reconnaître comme telle, ça ne veut pas dire que toute personne qui dirait « moi, je subis un burn-out » le ferait. Mais c'est permettre à ces personnes-là qui sont en grande souffrance d'accéder, ne serait-ce qu'aux comités régionaux qui traitent des maladies professionnelles. Parce qu'actuellement, n'oublions pas quand même que quand vous avez une maladie qui pourrait s'apparenter au burn-out, puisqu'on ne peut pas encore mettre le diagnostic, c'est l'assurance maladie qui paye vos arrêts maladie alors que nous sommes peut-être devant une maladie professionnelle. Donc il y a une urgence à reconnaître cette maladie comme une maladie professionnelle. Et reconnaissance ne veut pas dire que tout le monde qui demanderait à être reconnu comme tel le serait.
Alors Marianne Chapdelaine, vous parlez des chiffres effectivement. Aujourd'hui, on est incapable d'avoir des chiffres précis. Selon les études, ils varient. On parle de 30 000 cas, de 100 000, parfois de plus de 3 millions de personnes qui sont à risque. C'est pas très sérieux tout ça quelque part aussi, Marianne Chapdelaine. On a l'impression que, eh bien, c'est parce qu'on a du mal à définir ce qu'est véritablement un burn-out que on a des chiffres qui sont aussi différents. Vous pensez pas finalement qu'il y a aussi dans, eh bien, quelque part un espèce de diagnostic à la mode? Il y a des gens qui se disent en burn-out, et on verra ce qu'en pensent les médecins tout à l'heure, qui se disent en burn-out alors qu'il s'agit simplement d'un petit surmenage, d'un trop-plein, quelque chose de ce genre.
Vous savez, il y a quelque temps, on ne parlait pas du travail de nuit, on ne parlait pas du travail des enfants. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a une société qui évolue. Il y a un phénomène social qui est arrivé, une vraie réalité sociale, et il appartient de le reconnaître. Après, quand on pourra mettre un nom dessus, quand ça sera reconnu comme une maladie professionnelle, on verra bien s'il s'agit de 10 cas, de 100 000, voire d'un million. Je crois que le monde du travail actuellement, il évolue. Les modes de pression évoluent. Il est devenu peut-être moins dur physiquement, mais on sait aussi ce que c'est que le surmenage, et on sait aussi qu'il y a des personnes qui souffrent énormément. Donc je crois qu'il faut reconnaître cette maladie comme une maladie professionnelle, et je le dis, reconnaissance ne veut pas dire que tout le monde pourra oui. être reconnu. Et donc là, on aura des statistiques, des chiffres fiables, et puis peut-être ça permettra d'avancer dans le champ de la prévention.
Alors Sylvie Brière, vous êtes également avec nous ce matin, consultante en entreprise et présidente de l'association France Prévention. Bon, le burn-out, c'est clair que c'est un mal pernicieux, un mal violent. Le problème, c'est que c'est, comme je le disais, un mot qu'on emploie un petit peu à tort et à travers aujourd'hui, Sylvie Brière. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi de fatigue, d'angoisse, mais on assimile souvent ces mots à un burn-out alors que ça n'a rien à voir finalement. Et d'ailleurs, il y a un ras-le-bol de la part des médecins généralistes et des psychiatres qui disent on voit défiler des dizaines et des dizaines de personnes qui se considèrent en burn-out, alors que c'est pas du tout le cas aujourd'hui, Sylvie Brière.
Oui, alors j'y mets effectivement un autre mot à ce burn-out, qui est un référencement qui a été révélé par des médecins anglais, anglo-saxons. Donc, je mets le mot syndrome d'épuisement. Enfin, l'expression syndrome d'épuisement va donc donner une autre indication. C'est un épuisement progressif ou latent qui existe chez le travailleur, qui parfois est relié aussi à sa vie privée. Donc, la distinction est vraiment très ténue. Il s'agit presque de faire une enquête sur chaque individu pour comprendre quel est son parcours et exprimer le burn-out comme une notion de cramer de l'intérieur est très négatif. C'est une ambiance tout à fait morbide, je dirais, désagréable pour la personne qui subit un surcroît de travail, par exemple, en entreprise et un surcroît de charges personnelles. Et parfois, on a des travailleurs qui sont effectivement dans des situations à risque exceptionnelles, dans le sens où ils subissent un harcèlement vraiment chronique pour qu'ils soient éjectés de son poste de travail. Alors, tout ça, bien entendu, quand le médecin reçoit un patient, il n'est pas en charge de savoir tout ça. C'est pas son rôle. Lui, ce qu'il soigne, c'est le corps, éventuellement l'esprit. Mais si c'est un généraliste, il a un peu plus de mal quand même, parce que déjà, il a une salle d'attente plus chargée et il n'est pas spécialiste en psychiatrie ou en psychologie.
Alors, Sylvie Brière, on le verra un petit peu plus tard au cours de cette émission, mais c'est vrai que ce que vous dites est intéressant parce qu'il y a beaucoup de généralistes aujourd'hui qui se disent un petit peu démunis face à ce phénomène du burn-out. Malgré tout, Sylvie Brière, je suis désolé de vous poser la question comme ça parce que, évidemment, ce matin, il ne s'agit pas de remettre en cause les gens qui souffrent véritablement d'un burn-out, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque part aussi il y a un certain nombre de personnes qui, entre guillemets, s'écoutent un peu trop finalement?
Alors, dans les personnes que j'ai réceptionnées en tant que présidente d'association, je n'ai pas rencontré ce phénomène-là. J'ai pas rencontré de personnes qui venaient me trouver pour me raconter qu'ils étaient en difficulté. Tout était très concret, bien orchestré. Il y avait des valeurs précises, si vous voulez, dans les mots. Il n'y avait pas d'invention. J'ai eu sur peut-être une centaine de cas deux personnes qui se sont prétendues en syndrome d'épuisement sans l'être. Par contre, je parle bien moi de syndrome d'épuisement. Donc ils n'étaient pas dans la situation d'être dans un clash encore, et c'était avant.
Parce que Sylvie Brière, c'est vrai qu'il y a des problèmes de harcèlement, on verra quels sont les différents cas qui peuvent amener au burn-out. Malgré tout, moi j'en entends des fois des amis au cours d'un dîner ou d'un apéro, d'une soirée comme cela, dire « Oh là là, mais mon Dieu, oh là là, je suis fatigué, je pense que je suis au bord du burn-out ». C'est vraiment le mot qu'on entend de manière récurrente.
Oui.
C'est vrai qu'on a du mal à prendre cette maladie au sérieux aussi, quelque part.
Alors ça, c'est un peu dommage parce que forcément, il y a une espèce de récupération par la rumeur, par le côté un peu léger de tout le monde qui dit « Oh ben voilà, je suis fatiguée, je suis en burn-out ». Et c'est vrai que même mes amis autour le font et même des médecins le font. Alors vous voyez, bon, après, c'est le côté un peu convivial, un peu léger pour exorciser le problème qui, en soi, nous dépasse un peu tous. Parce que, en fait, quelle réponse donner à quelqu'un qui est en épuisement? C'est très très délicat, très difficile, parce qu'on a tous les cas de figure possibles, et que en fait, on sait aussi parfaitement qu'il est en destruction tout de même, et qu'il est aussi en potentiel de suicide. Donc on est quand même très mal avec ce genre de situation, et on a peur. Alors la peur n'évite pas le danger, mais ça n'est pas raisonnable non plus.
Alors, oui. Alors, Marianne Chapdelaine, députée socialiste d'Ille-et-Vilaine, vous le disiez tout à l'heure, les pathologies issues donc d'un burn-out au travail sont aujourd'hui gérées par la Caisse Générale de l'Assurance Maladie. Si le burn-out venait à être reconnu donc comme maladie professionnelle, il serait pris en charge par la branche accident du travail, maladie professionnelle, donc qui est financée à 97% par les cotisations des employeurs. Ça risque aussi de poser problème, Marianne Chapdelaine, parce que aujourd'hui, quand vous entendez des patrons dire on a déjà du mal à embaucher, pas sûr qu'ils puissent assurer ce phénomène.
Vous savez, si c'est une maladie du travail, si c'est une maladie professionnelle, il y a une loi en France, elle doit être reconnue. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'heure actuelle, les personnes qui sont en burn-out, qui sont en épuisement total, elles sont de toute façon soignées. À un moment donné, par contre, si c'est une maladie professionnelle, elles ont d'autres droits. Et puis, quelque part, je dirais, on doit aller vers la reconnaissance pour pouvoir aller vers la prévention. Parce qu'actuellement, quand vous êtes en entreprise, que vous avez ce qu'on appelle un burn-out, burn-out, quand vous êtes à l'épuisement, que vous n'avez peut-être pas encore franchi l'irrémédiable,
oui.
Bien, vous êtes en arrêt maladie. Et voilà, c'est tout. Bon, un arrêt maladie, comme ça peut être pour une grippe ou tout ça. Par contre, dès lors que ça devient une maladie professionnelle, on sait très bien que la prévention va pouvoir agir. Et c'est ça aussi qu'il faut faire. Je crois que la reconnaissance va entraîner la prise en compte de la prévention. Et quand on fait de la prévention, on sait qu'on diminue les risques.
Oui.
C'est pour ça qu'il est important de la reconnaître.
Alors, on reparlera de ce phénomène dont vous parlez aussi et de cette prévention. Malgré tout, je suis un petit peu sceptique sur cette idée de faire de la prévention, parce que quand vous écoutez beaucoup d'experts, beaucoup de psychiatres, ils vous disent que c'est quelque chose qu'on a du mal à voir venir, qui arrive du jour au lendemain. Je vois pas comment là, on va pouvoir lutter contre ce phénomène avec la prévention. On va devoir marquer une courte pause. On est ce matin avec Marie-Anne Chapdelaine, députée socialiste d'Ille-et-Vilaine, qui a signé la pétition pour que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. On est également avec Sylvie Brière, consultante en entreprise et présidente de l'association France Prévention. Venez nous dire ce que vous en pensez, cher auditeur. 0826 300 300. Moi, je pense que le burn-out, c'est un petit peu le diagnostic facile, le diagnostic à la mode aujourd'hui. On ne remet pas en cause, évidemment, ce matin, dans Seul contre tous, les gens qui sont frappés par le burn-out, parce que c'est quelque chose de terrible. Malgré tout, j'ai aussi un peu l'impression qu'un certain nombre de salariés s'écoutent un peu trop. 0826 300 300 pour prendre la parole, et puis sudradio.fr aussi pour voter. Jean-Marie Bordry, on fait un tour du côté du sondage avec vous.
Et le burn-out est devenu un diagnostic à la mode. Pour l'instant, 60% des auditeurs, ça a un peu baissé, 60% des auditeurs qui sont d'accord avec vous.
Allez, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.
Sud Radio. Seul contre tous.
Kevin Michel.
Le burn-out est un petit peu le diagnostic à la mode. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. Évidemment, on revient sur cette proposition de loi déposée par le député PS et ancien ministre Benoît Hamon pour une meilleure reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause les gens qui sont frappés par le burn-out directement, mais j'ai un peu l'impression que, eh bien, on fait une espèce d'auto-diagnostic dès qu'on est un peu fatigué au travail ou dès qu'on a un petit peu trop de pression. On s'auto déclare en situation de burn-out certaines personnes qui ont, à mon sens, un petit peu trop tendance à s'écouter. Évidemment, que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord dans les deux cas, que vous soyez en situation de burn-out ou pas, vous nous appelez parce que vous êtes directement concerné par ce phénomène. 0826 300 300, c'est le numéro à composer, et puis vous participez sur sudradio.fr. Alors, on est ce matin avec Marie-Anne Chapdelaine, députée socialiste d'Ille-et-Vilaine, et Sylvie Brière, consultante en entreprise et présidente de l'association France Prévention. Alors, Sylvie Brière, aujourd'hui, on a l'impression, quand on entend nos politiques, notamment parler du burn-out et les professionnels, eh bien, que rien n'est fait en France pour lutter contre ce terrible phénomène. Malgré tout, ça fait 40 ans quand même qu'on planche sur le sujet. Pour l'instant, le burn-out ne fait pas partie de la liste des maladies professionnelles. En revanche, une personne qui souffre de pathologie psychique, elle peut obtenir une reconnaissance par le biais d'une démarche individuelle. On sait que la personne qui est concernée ou sa famille, eh bien, doivent s'adresser à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Bon, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont en place, Sylvie Brière.
Oui, tout à fait. L'employeur est assigné réellement par une loi à la vigilance de la sécurité psychosociale de son entreprise. Donc c'est autant sur le plan moral que sur le plan physique. Donc il y a forcément des organisations internes qui permettent, entre autres, d'avoir la médecine du travail, l'inspection du travail, les partenaires sociaux par des syndicats. Donc tout ça, c'est articulé. On a l'assistante sociale, on a le représentant du personnel qui est direct ou indirect. Donc tous ces outils-là sont vraiment des dynamiques de l'entreprise. Oui. Aujourd'hui, on prétend que malheureusement, elles sont infiltrées de je ne sais pas quoi. Donc là, on est dans une démagogie ou une réalité. Et il faut se poser la question si ces outils-là fonctionnent réellement. Maintenant, l'autodiagnostic existe totalement également, je pense. Par contre, je mets en opposition les 69 suicides de France Télécom qui m'ont beaucoup porté sur moi en tant que personne, en tant que consultante, en tant que personne investie. Oui. Des suicides chez PSA, chez Lidl, chez un peu partout, excusez-moi, mais malheureusement, même la boulangerie du local, donc c'est très grave, il se passe quelque chose de concret. Donc, la législation va apporter un calme et va poser les choses. La prévention apporte quoi ? Elle apporte que l'on va entrer dans l'entreprise officiellement et créer peut-être des comités de vigilance, des comités comme la dame qui s'appelle Chantal proposait,
oui,
des comités de réflexion qui vont aborder des sujets avec réalisme. Et donc on va pas entrer dans l'entreprise de manière violente par la répression. On va dire là il y a un souci, un phénomène social qui se répand, il faut stopper quelque chose,
alors,
contrôler quelque chose.
Alors je vous redonne la parole dans un instant, Sylvie Brière et Marianne,
oui,
Chapdelaine. On va demander à Nathalie ce qu'elle en pense. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour.
Alors merci de nous appeler Nathalie. Ben, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, que quelque part, le burn-out est un diagnostic à la mode? Est-ce que vous partagez cette analyse ou pas du tout?
Non, pas du tout. J'ai été victime d'un burn-out.
Oui.
Mais ce n'est ni une mélancolie, ni une dépression. C'est vraiment un épuisement.
Alors racontez-nous comment ça s'est passé pour vous, Nathalie. Comment vous l'avez vu arriver, ce burn-out?
Ah, ben, j'ai vraiment vu arriver. Disons que c'était suite à une mutation. Je me suis retrouvée, donc, je suis enseignante, donc je me suis retrouvée TZR dans une ville où il n'y avait pas de poste pour moi. Donc je suis restée pendant un an dans la salle des professeurs à ne rien faire.
Ah oui.
Donc, obligation de rester sur le site, au cas où un professeur oui, tombe malade. Et bien sûr, au niveau du logement, ben, j'étais soit dans des auberges de jeunesse, parce qu'il faut savoir les conditions des professeurs des fois, hein, soit dans des auberges de jeunesse. J'ai dormi dans ma voiture, j'ai dormi un peu partout, donc je me voyais craquer.
Ah oui, c'est terrible.
Ah oui, oui. L'année d'après, on m'a donné un poste et ça s'est très très mal passé au niveau de mes collègues, puisque c'était une très très grosse équipe qui était scindée en deux. Donc j'ai eu droit à du harcèlement très très violent.
Oui.
Et je me sentais de plus en plus mal et incapable de réagir, avoir des envies, parce que je suis quand même quelqu'un de... J'aime énormément mon travail et donc je suis... Bon, comment dirais-je, j'aime mon travail.
Vous êtes investi, quoi, oui.
Voilà, je suis énormément investi et là, je voyais que j'avais envie et que je ne pouvais pas. Donc, entre mon cerveau et mon envie et les possibilités que j'avais, il y avait un décalage. Et au niveau de mon physique, j'avais de plus en plus de troubles, de pertes d'équilibre, jusqu'au moment où je suis sortie de chez moi et je ne savais plus où j'étais.
Et donc pour vous, Nathalie, aujourd'hui, vous vouliez insister sur le fait que l'accompagnement n'est pas efficace.
Tout à fait. Donc la seule chose qu'on a trouvé à faire, c'est de me mettre dans une clinique psychiatrique.
Oui.
Donc c'est pas franchement un lieu où on peut reprendre des forces. On a besoin d'aide au niveau physique, puisqu'on n'est plus capable de bouger. On n'a plus de connexion, au niveau on ne sait plus parler, on bégaye, on ne sait plus analyser. C'est vraiment, la clinique psychiatrique, c'est pas vraiment le lieu, ou alors il faudrait un endroit spécifique.
Alors justement, Nathalie, par rapport à ce que vous nous dites, Nathalie, et c'est très intéressant, et je vous remercie d'avoir témoigné donc sur Sud Radio. Évidemment, vous faites comme Nathalie, vous nous appelez au 0800 26 300 300. Marianne Chapdelaine, pardonnez-moi, députée socialiste donc d'Ille-et-Vilaine, vous êtes avec nous ce matin. On entend ce que nous dit Nathalie. En gros, quand elle a été victime d'un burn-out, on l'a mise donc dans un hôpital psychiatrique. Vous parliez justement tout à l'heure aussi avec Sylvie Brière de ce phénomène qui est mal connu aussi des médecins généralistes. Il y a beaucoup de témoignages, quand vous regardez un petit peu les articles de presse aujourd'hui, de personnes qui sont victimes et qui disent voilà, moi j'étais victime d'un burn-out et finalement mon médecin n'a rien trouvé de mieux que de me mettre sous antidépresseurs. On sent qu'il y a véritablement un problème, qu'il y a une méconnaissance autour de ce phénomène qui n'est pas traité de la manière la plus efficace qui soit. Hein.
Non, parce que en fait, elle est traitée comme une maladie. Elle est traitée comme une maladie psychique, alors qu'elle a des particularités. Qu'on l'a dit, c'est une maladie professionnelle. On voit bien là comment la descente s'est faite avec pas d'affectation, puis une mauvaise affectation. Donc, à un moment donné, je dirais que... Et de là où est le législateur, c'est de faire cette proposition de loi. Donc, c'est pas une pétition que j'ai signé la proposition de loi de Benoît Hamon. C'est de dire, reconnaissons cette maladie comme une maladie professionnelle, à charge après, bien évidemment, au corps médical d'avoir la réponse adaptée. Je ne suis pas médecin,
oui,
mais à un moment donné, je pense aussi que la reconnaissance pour les personnes de dire, non, vous n'êtes pas malade psychiquement, c'est une maladie professionnelle qui, bien évidemment, a des conséquences psychiques, participera, je dirais, peut-être au rétablissement. Et puis surtout, tout à l'heure, on a parlé de la prévention. Moi, je crois à la prévention. Quand on a des maladies professionnelles, quand sur des échafauds, on met en dessous un filet de rattrapage pour prendre une analogie avec quelque chose de physique, on peut faire la même
chose.
Oui,
mais Marianne Chapdelaine, le souci, là, quand je vous dis
que je ne pourrais pas le faire.
Mais quand je vous dis que je suis sceptique, en fait, concernant cette prévention, c'est parce que les personnes qui sont victimes de burn-out disent qu'on n'a rien vu venir. C'est arrivé d'un coup un matin, on ne pouvait plus se lever du lit, on n'arrivait plus à avancer. C'est quand le corps ne répond plus. Est-ce que vous pensez véritablement, j'ai peur que ce soit un petit peu ouvrir la boîte de Pandore, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui vont dire
pas
ah bah oui.
D'affectation pendant un an, je crois que pas d'affectation pendant un an, on le voit venir, non?
Alors,
donc je crois qu'à un moment donné, c'est tout un travail de fond qu'il faut faire. On va pas, moi je dis pas que notre PPL en claquant des doigts, elle va améliorer, mais elle permettra de mettre des mots sur une maladie professionnelle. Et puis après, il faudra travailler dessus sur de la prévention au long cours. Comment on laisse pas des enseignants alors qu'il y a tant de besoins pour avoir des dédoublements de classe et tout ça. Donc je crois que c'est véritablement un enjeu qui nous attend.
Alors, c'est vrai, et après, pour aller un petit peu dans votre sens ce matin, Marianne Chapdelaine et Sylvie Brière, qu'il y a un petit côté choquant aussi parce que les conditions requises sont extrêmement strictes. Aujourd'hui, la maladie doit avoir entraîné le décès du salarié ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25%. C'est justement cette barrière que Benoît Hamon entend faire sauter. Et par ailleurs, on pourrait aussi rappeler que la victime ou ses ayants droit doivent apporter la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail. Quelque part, ça paraît assez logique, mais c'est quelque chose d'assez difficile à prouver. Alors, on est avec Yves également ce matin. Yves, qui a été victime d'un burn-out. Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
Alors, merci de nous appeler, Yves. Eh bien, racontez-nous comment ça s'est passé pour vous, ce burn-out.
Écoutez, ce qui s'est passé pour moi, personne ne savait mettre de nom dessus. Ça s'est passé par une grande douleur physique, hein. Mal de dos, difficulté à marcher,
oui.
Quelquefois une gestuelle grimaçante parce que j'avais les mâchoires bloquées. Je parlais tout d'un coup, ça s'arrêtait, je pouvais plus, comme si j'avais une crampe.
Alors comment vous en êtes arrivé là, Yves? Vous faisiez quoi? Vous travailliez dans quoi?
J'ai travaillé beaucoup.
Oui.
Alors il y a deux facteurs, hein, et je pense que dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on voit les choses chez les gens. Quand on est informé, on voit les choses venir.
Oui.
Quand on est comment c'est arrivé? Parce que j'ai travaillé énormément, mais j'ai travaillé énormément et en même temps, effectivement, j'avais l'impression que je me mettais moi.
Oui.
Parce que j'avais envie, il y a plein de choses qui me plaisaient, il y avait plein de choses que je voulais faire. J'ai toujours travaillé au plaisir, voilà. Ça, c'est la première chose.
Oui.
J'ai eu des difficultés avec un enfant qui a eu une mauvaise fréquentation, qui a commencé à se droguer.
Oui, donc du coup, tous les problèmes cumulés...
On n'était pas très d'accord avec ma femme sur la conduite à tenir, comment faire, bon voilà. Bref, et j'ai commencé à consulter un psychiatre, et il comprenait pas pourquoi j'avais mal au dos, pourquoi j'étais bloqué, pourquoi... Au bout d'un moment, bon, et puis on a sympathisé, il m'a dit, bon, tu fais un burn-out, il faudrait que tu t'arrêtes.
Alors,
et en même temps d'angoisser avec ce qui se passe dans ta famille et puis laisser du travail de côté.
Oui, alors là-dessus, Yves, et merci, je vous remercie de témoigner comme ça, mais je voudrais avoir la réaction par rapport à ce que vous nous dites et que je relève ce matin, Yves, la réaction de Sylvie Brière, qui est consultante en entreprise et présidente donc de l'association France Prévention. Sylvie Brière, bon, on entend ce que nous dit Yves, il y a eu un surmenage, effectivement, des problèmes au travail, malgré tout, et je suis désolé de le dire de la sorte, mais on voit... Concrètement, avec le témoignage d'Yves, qu'on confond un peu tout. Yves nous dit quoi? Il y avait des problèmes aussi de famille, il y avait des désaccords avec son épouse. Voyez, c'est aussi pour ça que je défends cette position ce matin, Sylvie Brière, parce que j'ai l'impression qu'on confond un petit peu tout autour de ce problème du burn-out. Je suis très étonné que le psychiatre d'Yves lui dise « Ah bah tiens, tu fais un burn-out parce que, ok, t'es surmené au travail et parce que tu as aussi des problèmes à la maison. » Quel est le rapport, Sylvie Brière, dans tout ça?
Alors, c'est la confusion que l'on fait entre le terme burn-out qui était attribué exclusivement au monde du travail et entre autres des soignants et des personnes personne enseignante ou en relation avec des activités d'enseignement, donc qui date de 1976. Donc il y a peut-être un progrès à faire. Alors le syndrome d'épuisement, j'ai sous les yeux la définition qui est donnée par un simple dictionnaire que tout le monde peut consulter. Donc le syndrome d'épuisement, c'est un ensemble de maladies déclenchées par la fatigue trop récurrente et le trop en tout ou le pas assez en tout, avec un passage entre l'un et l'autre, sans transition, répétitivement sur de nombreux mois, voire même des années. Donc, ça correspond à ce qu'a vécu Nathalie, ça correspond à ce qu'a vécu Yves. Yves l'a vécu positivement parce qu'il était investi joyeusement dans son travail, et Nathalie a été harcelée et mise au placard, comme on dit dans les entreprises. Donc, les deux cas sont reliés en premier avec aux professionnels. Pourquoi ? Si les conditions professionnelles avaient été optimales, la condition familiale aurait été plus facile à gérer.
Oui, alors évidemment, on entend ce que vous nous dites ce matin, Sylvie Brière, consultante en entreprise, présidente de l'association France Prévention. On est également ce matin avec Marie-Anne Chapdelaine, à qui on va redonner la parole dans un instant, qui est députée socialiste d'Ille-et-Vilaine et qui a signé la proposition de loi donc portée par Benoît Hamon pour une meilleure reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle. Moi, c'est vrai que je dois dire que je suis un petit peu sceptique, on le verra maintenant, parce qu'on va faire un petit peu d'histoire, si je puis dire, que ce mal existe depuis très longtemps. J'ai un petit peu l'impression quelque part qu'on a besoin aujourd'hui en 2016 de mettre un mot sur chaque phénomène, un petit peu sur toutes les choses qui nous touchent de près ou de loin. Le burn-out est à mon sens devenu quelque part un diagnostic un peu à la mode. Évidemment, ça ne concerne pas Yves et un certain nombre de nos auditeurs qui nous ont appelés, qui nous ont fait part de leur mal-être qui entoure donc cette question du burn-out. Alors vous nous appelez pour nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est devenu le diagnostic à la mode ou pas d'accord. 0826 300 300, vous avez la parole, l'antenne vous êtes ouverte, on se retrouve dans un instant.
Sud Radio.
Seul contre tous.
Seul contre tous. Kevin Michel.
Le burn-out est un petit peu devenu le diagnostic à la mode. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous, évidemment. Mes deux invités ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. On est ce matin avec Sylvie Brière, consultante en entreprise et présidente de l'association France Prévention. On est également avec Marie-Anne Chapdelaine, députée socialiste d'Ille-et-Vilaine, qui a signé la proposition de loi portée par Benoît Hamon pour une meilleure reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. On est également avec vous, chers auditeurs, 0826 300 300, que vous soyez d'accord avec moi pour dire que le burn-out est un diagnostic à la mode ou contre moi. Dans les deux cas, vous prenez la parole à l'antenne et puis vous participez aussi avec vos commentaires et vos votes sur sudradio.fr. On fait un point sondage avec vous, Jean-Marie.
Et pour l'instant, vous êtes d'accord avec Kevin, 59% d'entre vous sur sudradio.fr.
Alors, dans un instant, on accueillera Jean-Georges qui est chef d'entreprise et qui voudrait donc réagir sur cette question du burn-out. Avant cela, je voudrais poser donc cette question à Marie-Anne Chapdelaine, députée socialiste d'Ille-et-Vilaine, sur la notion du burn-out considérée donc par certains médecins aujourd'hui, Marie-Anne Chapdelaine, comme mal définie. En tout cas, il y a un certain nombre de spécialistes qui disent que telle qu'elle est aujourd'hui, cette notion désigne quelque chose de trop imprécis pour offrir quelque part une réponse thérapeutique unifiée. C'est ce que disent les praticiens et c'est un constat qui est partagé par notamment la présidente de l'association des malades France Burnout, les praticiens, Marie-Anne Chapdelaine, qui disent on marche un peu sur la tête en voulant commencer par la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, ce que nous, on propose au niveau de la loi, c'est que les personnes qui s'estiment victimes d'un burn-out peuvent saisir les fameux comités régionaux en faisant sauter le verrou des 25% d'incapacité qui permettrait d'y aller.
Que ce soit 0%, hein, c'est ça en gros.
Voilà. Et l'idée, c'est de dire, il y a des personnes qui s'estiment victimes du burn-out. On sait ça se traduit par des symptômes. Permettons à ces personnes d'aller vers ces comités régionaux. Et les comités régionaux composés de médecins, composés, pourront, eux, faire un diagnostic et nous dire la réalité.
Oui.
Et puis, quelque part, moi, je le dis, si on reconnaît comme maladie professionnelle, on aura la prévention. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, ça permettra de favoriser la mise en œuvre d'organisations sans doute plus bienveillante à l'égard du salarié, et tout le monde y trouvera, je dirais, son intérêt. Et puis s'il y a aussi des abus, eh bien les personnes seront aussi sanctionnées. Donc je crois qu'on a qu'intérêt à reconnaître cette maladie-là, qui est un véritable problème de société actuellement. On la reconnaît, on arrivera donc à mieux la définir, mieux la prévenir, et les abus seront mieux sanctionnés. Donc je crois qu'on y a tous intérêt.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que d'un côté, quelque part, on n'a pas grand-chose à perdre avec cette reconnaissance. Alors, Jean-Georges, vous voulez réagir. Bonjour, Jean-Georges.
Bonjour.
Alors, vous, vous êtes chef d'entreprise et pour vous, eh bien, c'est pas vraiment ce burn-out lié aux heures de travail, mais plutôt à la difficulté de la tâche. Hein.
Absolument. Je voulais réagir surtout par rapport à ce qu'avait dit un chef d'entreprise cette semaine, là, qui reprochait aux gens d'être à 35 heures et il ne comprenait pas qu'on puisse faire un burn-out. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai travaillé pendant des années 20 heures par jour, oui. J'ai jamais fait de burn-out. J'en ai fait un dernièrement, enfin l'année dernière. C'est pas du tout lié aux heures de travail, ça n'a rien à voir. C'est simplement une difficulté liée au monde du travail, déjà le plus. C'est la difficulté à remplir une mission, à remplir une tâche où on se sent incapable de le faire et on bloque, on fait un blocage. J'ai perdu un ami comme ça qui était hyper compétent en informatique. On lui a demandé un travail différent dans son entreprise. Il a pété les plombs et il est décédé en même pas 8 jours, quoi. Je veux dire, voilà, c'est lié au monde du travail. Et à ce qu'on nous impose. Par contre, quand on parle de diagnostic et qu'il y a des abus dans les diagnostics, il faudrait peut-être aussi qu'à un moment donné, le milieu médical se pose les questions. Et parce que s'il y a des abus, c'est pas les abus de la part des gens qui sont concernés ou qui sont pas concernés ou qui sont faussement concernés. C'est simplement peut-être que le milieu médical ne mesure pas la différence entre la dépression et ce qui est un burn-out.
Oui, alors. Voilà.
Et peut-être qu'il faudra peut-être faire de la formation à ce niveau-là ou leur apprendre peut-être à déterminer vraiment le burn-out de la part du milieu médical.
C'est vrai, vous avez entièrement raison, Jean-Georges, et c'est vrai que, eh bien, on a entendu hein, tout à l'heure l'un de nos auditeurs nous dire qu'il avait fait un burn-out. En tout cas, c'est ce que lui avait déclaré donc son psychiatre. Et c'est vrai qu'on avait l'impression, comme ça, sans être médecin évidemment, que ça s'apparentait plus à une dépression. Alors, Sylvie Brière, consultante en entreprise et présidente de l'association France Prévention, Jean-Georges nous dit quelque chose de vrai. C'est vrai que c'est pas automatiquement lié à des horaires trop importants. Malgré tout, bon, ça peut être le cas, ça peut être un surmenage, un travail trop important, une pression aussi mise par l'employeur. Et puis, ce phénomène, Sylvie Brière, ce phénomène de harcèlement, les causes sont diverses hein, concernant le burn-out.
Oui, en fait, le harcèlement, c'est un mot où on va, dans le cadre du syndrome d'épuisement, on met beaucoup de notions, à savoir que ça peut être donc les cadences, ça peut être un travail inapproprié ou que l'on n'aime pas faire, ça peut être des heures de travail impossibles à tenir, ça peut être du travail de nuit, ça peut être un manque de matériel dans l'entreprise qui empêche l'activité à s'exécuter correctement. Et en général, on va résumer, c'est la perspective qui est tronquée, qui est négative, qui n'est pas en énergie d'avancement et de productivité positive avec un contentement dans le travail. Voilà ce qui handicape la personne. Le syndrome d'épuisement va s'installer parce que la personne va s'attacher à continuer de remplir ses tâches avec son engagement habituel, sa force habituelle, son envie de travail. Et donc, lorsque l'on arrive à la case dépression devant le médecin du travail et qu'il annonce à l'employé qu'il est dans une situation de handicap, je peux vous dire que c'est très, très violent. Et tout ce qui m'a été rapporté sur ce sujet correspond à ce qu'a dit Nathalie, je crois, où elle est passée en commission du handicap. C'est terrifiant. Les mots psychiatre, handicap, internement, médicaments, alors que la plupart du temps, dans tous les cas que j'ai rencontrés, des gens n'avaient pas été ni hospitalisés ou que très rarement, très exceptionnellement. Il y a des conséquences énormes. Il y a des maladies dérivées qui arrivent en même temps, puisque le corps est tellement maltraité qu'il déclenche des maladies extrêmement graves, comme l'infarctus, l'AVC, etc.
Alors, on va y revenir, évidemment, On va y revenir, Sylvie Brière, sur ces maladies. Sylvie Brière et Marianne Chapdelaine, on va terminer l'émission ensemble et vous aurez bien évidemment le mot de la fin. Mais avant, je voudrais qu'on ait juste rapidement le témoignage d'un dernier auditeur qui n'est pas d'accord avec moi ce matin pour dire que le burn-out, c'est devenu le diagnostic à la mode. On est avec Daniel. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour. Oui, j'écoute l'émission depuis ce matin. Pour moi, c'est très clair. Hein. Il y a des choses que vous avez dites qui sont très intéressantes. C'est des copains qui disent « je suis au bord du burn-out ». D'accord ?
Oui.
Ça, c'est très intéressant. Et aussi d'autres personnes donc qui disent qu'ils ont un burn-out, mais qui sont déjà dans un état de fatigue, mais c'est pas un burn-out.
Oui.
On est bien d'accord avec ça. En gros, c'est ça.
Oui.
Pour moi, une personne qui a un burn-out, justement, voilà, oui, c'est ça l'expression que vous disiez, il s'écoute un peu trop. Pour moi, ces gens-là, c'est des personnes qui s'écoutent, point. Une personne qui a un burn-out, c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas, justement.
Oui, c'est
comme
s'il avait
eu des petits signaux qui disent « Coco, attention, attention, si tu continues, là, tu vas être dans le mur. »
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Daniel, vous avez raison.
Tous ces gens-là que vous dites, eux, ils s'écoutent, justement. Ils sont dans un état de fatigue intense, ils ne sont pas encore arrivés au burn-out. Et avant que ça leur arrive, ils réagissent.
Malgré tout, Daniel, hein, si vous me permettez cette remarque, simplement, moi je connais des gens qui ont fait un burn-out en étant journaliste, qui travaillaient, parce que ça a été mon cas aussi quand j'étais sur le terrain, en horaire décalé, parfois de nuit, parfois 25, 26, 27 heures non-stop sur des phénomènes, enfin sur des coups importants. Je peux vous dire que pour connaître des gens qui ont fait des burn-out, leur situation était particulièrement compliquée. J'en connais d'autres qui, en travaillant peu, enfin je remets en cause un petit peu le diagnostic parfois, parce que eh bien, pour avoir connu les deux phénomènes, je peux vous dire que la situation n'était pas du tout la même. Merci beaucoup Daniel pour votre témoignage. Dans un instant, on va finir avec nos deux invités cette émission sur le burn-out, qui est à mon sens devenu un diagnostic un peu trop à la mode. D'accord, pas d'accord, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant.
Sud Radio.
Seul contre tous.
Seul contre tous. Kevin Michel.
Le burn-out est un peu devenu le diagnostic à la mode. C'est en tout cas la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. Évidemment, que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord, vous réagissez au 0826 300 300, et puis vous participez également sur sudradio.fr. Évidemment, mes deux invités ce matin ne sont pas tout à fait d'accord. On est avec Sylvie Brière, consultante en entreprise et présidente de l'association France Prévention. On est également avec Marianne Chapdelaine, députée socialiste d'Ille-et-Vilaine, qui a signé la proposition de loi portée par Benoît Hamon pour une meilleure reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Alors, Marianne Chapdelaine, je voudrais avoir votre réaction, parce que dans Global Burnout, le philosophe Pascal Chabot parle de pathologie de civilisation, comme l'était finalement la mélancolie pour lui au 19e siècle, la neurasthénie au début du 20e, ou la paranoïa durant l'entre-deux-guerres. Voilà, il dit toutes ces maladies collectives sont quelque part un trouble de la relation entre l'individu et la société. Marianne Chapdelaine, voilà pourquoi aussi, quelque part, je parle de phénomène de mort, entre guillemets, avec cette signification, avec ce mot burn-out qui, eh bien, finalement, existe depuis très longtemps, Marianne Chapdelaine.
Vous savez, moi, je crois qu'on a des personnes devant nous qui souffrent. Et puis, on a aussi des faits tangibles. On a aussi des relations de travail qui ont beaucoup évolué. On a vu des pressions arriver, on a vu des exigences de plus en plus fortes. Les métiers ont aussi évolué. On est passé de métiers beaucoup plus physiques à des métiers un peu plus intellectuels. Et je pense que ce qui a été décrit par les personnes ne peut pas être signifié comme de la mélancolie. Et je pense qu'on est devant un vrai fait de société sur lequel il faut effectivement qu'on améliore cette prise en charge, qu'on la reconnaisse mieux, pour que justement on puisse agir dessus. Parce que quand vous entendez les personnes et voir que quelquefois ça va sur une issue fatale, je pense qu'on peut pas parler de mélancolie, ou on peut pas parler de fait. Et puis moi, je crois beaucoup au fait que les médecins qui vont avoir à traiter de ces maladies, qu'elles soient professionnelles ou non, devront, je dirais, poser un diagnostic et permettre à ces personnes-là de pouvoir se voir reconnaître en tant que maladie professionnelle ou pas. Parce que c'est aussi ça.
Oui, bien sûr.
On peut, voilà, elles peuvent accéder à ces fameux comités qui les reconnaîtront pas. Je pense que ça permettra de mieux connaître cette maladie et de mieux la traiter, que ça soit comme maladie professionnelle ou comme maladie psychique, tout simplement. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de mélancolie. Le phénomène, il existe. Vous avez vu le témoignage de nos éditeurs. Il y en a plein qui.
Oui, oui, c'est vrai. C'est terrible. C'est terrible quand on les entend. Alors, Sylvie Brière, il nous reste 45 secondes pour conclure cette émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur le sujet, des études qui ont été largement critiquées, notamment par le département études et statistiques du ministère du Travail. On parle de 12% des salariés touchés, parfois 17%, ça veut pas dire grand chose quelque part. Le problème, c'est que toutes ces enquêtes, elles portent sur le ressenti des personnes, mais quelque part aussi, une vraie étude, elle doit reposer sur des critères objectifs, comme par exemple l'exposition à tel ou tel facteur, et à quel niveau notamment, Sylvie Brière.
Alors, donc là, vous parlez de la reconnaissance et de l'organisation de cette maladie, en quelque sorte, enfin de ce syndrome, puisque c'est une compilation de maladies. Donc en fait, c'est l'OMS qui doit s'accrocher sur le sujet et nous donner des nouvelles résultantes bien plus consistantes que de répertorier dans la qualification d'épuisement ou de dépression. Bon, ça c'est un gros travail et il faut malheureusement du temps. Le syndrome d'épuisement s'enclenche aussi sur une dizaine d'années en général, donc c'est un gros travail sur l'individu également. Donc, ce qui me semble pertinent, c'est que en tant que responsable des risques psychosociaux, il faut installer l'idée de santé publique et de mettre en place des formations avec les outils que l'on a actuellement, quitte à les réactualiser et à les perfectionner en cours de route, et les offrir aux soignants et aux ressources humaines, aux managers, à toutes les personnes qui sont décideurs, aux employeurs également, bien sûr, installer des prévoyances qui sont le dépistage, avec les outils actuels, quitte, je répète, à les réactualiser ensuite.
Merci.
Et installer la prévention.
Merci, merci beaucoup Sylvie Brière, consultante en entreprise et présidente de l'association France Prévention. Merci aussi à vous Marie-Anne Chapdelaine, députée socialiste d'Ille-et-Vilaine, qui a donc signé cette proposition de loi portée par Benoît Hamon. Merci à tous nos auditeurs de vos témoignages. Sudradio.fr, on finit sur quel score Jean-Marie Bordry?
Le burn-out, un diagnostic à la mode, 60% des auditeurs qui sont d'accord avec vous, Kéline.